à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel du mercredi 10 juillet 2019. Raissa Girondin en votre compagnie, voici les titres. En République démocratique du Congo, l'ONU exhorte les autorités congolaises à saisir ses chances de réconciliation et de justice dans la région du Kassai. En Algérie, l'armée réitère son soutien au président par intérim Ahmed Gaïd Salah après l'expiration du délai d'intérim. En Mauritanie, pouvoir et opposition veulent entamer le dialogue pour sortir de la crise post-électorale dans nos dossiers du jour.
Qu'on soit amené à voir partout des voitures de l'armée avec des 12-7 pointés vers la rue, comme une situation que nous n'avons pratiquement pas connue.
L'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, démissionne après la controverse avec le président américain Donald Trump. Vous retrouverez bien sûr le journal de la CAN, Sénégal-Bénin, première affiche des quarts de finale. Mais tout d'abord, le journal. Le chef d'état-major de l'armée en Algérie, Hamid Gaïd Salah, a réaffirmé le soutien des militaires au président Abdelkader Ben Salah, dont l'intérim de 90 jours aurait dû s'achever mardi, mais qui reste à la tête de l'État en l'absence d'élections présidentielles. Nathalie Barge.
Le dernier message du chef de l'État constitue une approche raisonnable et sensée pour sortir le pays de sa crise, a dit le général Gaïd Salah dans un discours hier soir. Il a réitéré le souhait de l'armée de la tenue d'une présidentielle dans les plus brefs délais à travers l'adoption de la voie du dialogue national, estimant que ce scrutin sera le premier fruit constitutionnel et légal susceptible d'apporter des solutions aux problèmes de l'Algérie. Dans un discours à la Nation le 6 juillet, le président intérimaire Abdelkader Ben Salah avait proposé l'élaboration d'un dialogue pour préparer le scrutin présidentiel, dans lequel ni les autorités politiques ni l'armée ne seraient impliquées. Monsieur Ben Salah a été de facto prolongé à ce poste pour une durée indéterminée du fait de l'annulation de la présidentielle prévue le 4 juillet.
Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à l'impunité qui menace la paix fragile au Kassai après les violences meurtrières de 2016 et 2017 dans le centre de la République démocratique du Congo. Le point avec Ekia Badou.
Les experts de l'ONU demandent la libération immédiate des femmes et enfants réduits en esclavage, selon eux, par une milice dans leur rapport au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le Kassai a basculé dans la violence après la mort d'un chef coutumier, Kamuinan Sapu, tué le 12 août 2016 par les forces de sécurité. L'investiture le 24 janvier du nouveau président Félix Tshisekedi, dont la famille originaire du Kassai, a suscité un mouvement de désarmement spontané et volontaire de miliciens Kamuina Tsapu, confirment les experts onusiens. Pour l'heure, le seul procès en cours sur les événements du Kassai, celui du meurtre de deux experts du Conseil de sécurité de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan, et leurs quatre accompagnateurs congolais, mobilise entièrement les rares ressources disponibles, souligne-t-il. Les experts regrettent que les enquêtes ne portent pas sur l'ensemble des crimes de guerre dans le Kassai. Ces violences ont fait au moins 3000 morts et des centaines de milliers de déplacés.
Toujours en République démocratique du Congo, le représentant de l'Union européenne a publiquement accusé l'ex-porte-parole du président Joseph Kabila, Lambert Mende, de déni de démocratie. Monsieur Mende est candidat au poste de gouverneur dans sa province du Sankuru. Initialement candidat unique, il a saisi la Cour constitutionnelle contre la réhabilitation de son rival Joseph Stéphane Mukamadi. La consultation des députés provinciaux prévue mercredi a de nouveau été reportée. Dans l'ouest de l'Ouganda, la transmission du virus Ebola est interrompue, a indiqué mercredi le ministère de la Santé de la RDC. Deux enfants sont décédés mi-juin de la fièvre hémorragique dans cette partie du pays. L'Ouganda a renforcé son système de surveillance aux frontières, appelle-t-on à Kinshasa. Côté congolais, 11 nouveaux cas de décès ont été enregistrés en date du lundi 8 juillet, ce qui porte les décès à 1641 dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé à Nairobi que la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel ne suffirait pas à enrayer la progression du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il s'est dit prêt à soutenir toute nouvelle initiative des dirigeants africains. Les chefs d'État ouest-africains pensent que nous avons besoin d'une réponse bien plus robuste et collective et que la communauté internationale doit trouver les mécanismes permettant de la soutenir pleinement, a-t-il déclaré. La France a admis aujourd'hui que les missiles découverts dans un QG du maréchal libyen Khalifa Haftar près de Tripoli lui appartenaient, tout en niant avoir fourni ses armes aux rebelles en violation de l'embargo sur les armes en vigueur en Libye. Cette affaire risque de nourrir une fois encore les suspicions quant à un soutien français au camp Haftar, ce dont Paris se défend. Au Nigeria, deuxième jour de protestation des membres du groupe chiite qui sont de nouveau descendus dans les rues d'Abuja. Hier, des membres du mouvement islamique du Nigeria ont été tués lors d'une manifestation devant le Parlement fédéral. Des détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Plusieurs centaines d'hommes et de femmes ont manifesté pour la seconde journée consécutive à Abuja pour exiger la libération de leur leader Ibrahim El-Zakzaki. Certaines parties du centre-ville ont été bloquées. Les manifestants scandaient des slogans près des locaux de la Commission nationale des droits de l'homme. Ils protestent contre le maintien en détention depuis 2015 de leur leader et réclament sa libération. Sa détention a entraîné de nombreuses manifestations à Abuja et dans plusieurs villes du Nord. Les violents incidents d'hier ont obligé le chef de la police nigériane à ordonner une surveillance de 24 heures dans la capitale fédérale Abuja et ses environs. Au moins 40 manifestants ont été arrêtés mardi après des affrontements avec la police quand ils ont tenté d'envahir le Parlement. Des agents de sécurité ont été postés à certains grands carrefours et à des endroits stratégiques dans le centre-ville pour empêcher tout débordement de la situation.
Et toujours au Nigeria, 4 jeunes hommes ont été arrêtés par la police islamique à Kano, dans le nord du pays, pour avoir célébré une parodie de mariage diffusée sur Facebook Live. Nous les avons arrêtés pour avoir moqué le caractère sacré de l'institution du mariage. Selon le directeur général de la Hizba, la police islamique, Abba Soufi, le marié Sanusi Abdoulaye a avoué avoir offert pour de faux une dot de 20 000 naira, ce qui correspond à 56 $, à une amie Facebook qui se trouve dans la ville de Maïdougouri.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, a annoncé sa démission aujourd'hui. Décision intervenue à la suite de la fuite de mémos diplomatiques peu flatteurs à l'égard du président américain Donald Trump. Les détails avec Eric Manirakiza.
Dans ses rapports publiés dans la presse samedi, Kim Darroch jugeait Donald Trump instable et incompétent et l'administration américaine unique dans son dysfonctionnement. Ces fuites ont provoqué une tempête. Donald Trump a assuré lundi qu'il n'aurait plus de contact avec Kim Darroch, qu'il a qualifié de type très stupide. Monsieur Trump a aussi vertement critiqué la première ministre conservatrice sortante Theresa May, qui a affiché son soutien aux diplomates. L'ambassadeur Darroch a expliqué que la situation actuelle l'empêche de remplir son rôle comme il le souhaiterait. Theresa May a déploré la démission du diplomate. Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a aussi regretté sa démission, soutenant qu'il a rendu un service de qualité. En revanche, l'ex-chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, donné gagnant de la course pour remplacer Theresa May, a lui évité de lui apporter son soutien. Londres a ouvert une enquête pour trouver le ou les responsables de ces fuites et envisage des poursuites judiciaires.
Dans le nord-ouest de la Syrie, au moins 7 civils ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens du régime syrien contre la région d'Idleb. Ces raids ont également mis hors service un hôpital, selon une ONG et un médecin de la région. Depuis fin avril, les bombardements ont tué plus de 550 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et poussé la fuite de quelques 330 000 personnes, d'après l'ONU. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et tout de suite, le journal de la CAN présenté par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Les quarts de finale ont débuté. Deux rendez-vous au programme. On connaîtra tout à l'heure le premier pays qualifié pour les demi-finales à l'issue du duel ouest-africain entre le Sénégal et le Bénin qui s'affrontent présentement au Caire. Et pour en parler, nous retrouvons tout de suite Amdine Sy en direct du 30 juin par le stade international où se déroule donc la rencontre. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au stade du 30 juin du Caire où se joue le premier quart de finale. Le tournoi qu'on joue depuis 82 minutes. Et c'est le Sénégal qui mène par 1-0, un but marqué à la 69e minute par Idrissa Gana Gueye. Le milieu de terrain du Sénégal a transversé la défense béninoise sur un mouvement collectif. Il faut dire que sur ce but, Sadio Mané a été très difficile puisque c'est lui qui a quand même délivré la passe décisive à Idrissa Gana Gueye. D'ailleurs, c'est son 4e but en sélection, le but le plus important pour le moment puisque ce but permettrait au Sénégal de se qualifier. Retenez que le Sénégal a eu à souffrir hein, parce que devant un bloc bas des Béninois, le Sénégal a beaucoup buté sur cette équipe béninoise avant quand même de marquer ce but. Maintenant, il va falloir garder cet avantage de but durant les 7 dernières minutes qui restent. Ce sera difficile puisque les Béninois sont en train quand même d'attaquer pour essayer de remettre les pendules à l'heure. En ce moment même, il y a un couvrant. On va suivre, si vous le bien, ce couvrant Yacouba.
Merci bien Amdine Sy, j'espère qu'on va vous reprendre un peu plus tard. Ils vont mettre un peu de temps à tirer ce coup franc là. À 19h, temps universel, les bourreaux sud-africains du pays hôte feront face au Nigeria. Vainqueur du tenant du titre camerounais en 8e, le coach des Super Eagles le sait. Ils auront affaire à du lourd.
This is a match between two good football teams.
Il s'agit d'un match entre deux bonnes équipes de football. Nous les connaissons car nous avons joué contre eux déjà et nous les avons vus contre l'Égypte. Nous devons encore nous améliorer dans l'organisation. Je pense qu'ils ont également la possibilité de jouer de différentes façons. Ils doivent choisir quelque chose pour nous battre et nous aurons à faire pareil.
C'était donc Gernot Rohr, sélectionneur du Nigeria. Demain, à 19h, temps universel, les surprenants Baria auront fort à faire contre les Aigles de Carthage. Face aux Malgaches, les Tunisiens auront peut-être l'occasion de signer leur première victoire dans cette CAN. Après 4 nuls enregistrés jusqu'ici, mais le sélectionneur de la Tunisie le sait, Madagascar voudra surfer sur sa bonne lancée dans cette CAN. On écoute Alain Giresse.
C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussi, ça on en est conscient. Donc ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender, et il faudra le prendre comme tel, en respectant cette équipe qui a fait de superbes résultats dans cette compétition.
Bien avant ce match, à 16h, temps universel, moins en vue que les années antérieures, la Côte d'Ivoire, qui s'est qualifiée au forceps face au Mali, devra être beaucoup plus costaud face à l'équipe en forme de cette CAN, l'Algérie.
Sur les stats qu'ils font, sont nettement favoris, parce que quand tu fais une compétition, tu perds pas de match, t'encaisses pas de but, t'en mets 9 à tout le monde. Donc ça veut dire que c'est quand même une belle équipe. Derrière, ils sont costauds. Au milieu de terrain, ils ont de bons joueurs. Devant, ça va vite. Maintenant, on va pas dire que l'Algérie nous fait peur. Non, ça reste un match de foot. Chacun viendra avec ses forces, avec ses qualités. À la fin du match, on fera les bilans.
Ibrahim Camara, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens peuvent compter sur un soutien de taille, celui de leur président qui croit en cette équipe. Alassane Ouattara.
Je suis navré pour mes frères maliens, mais je suis un homme heureux de là. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter deux coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203.
Ces quarts de finale se joueront avec un nouvel acteur, l'assistance vidéo à l'arbitrage qui sera déployée à partir de ce stade de la compétition. Bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. Salif Sané, défenseur du Sénégal.
Je suis pas trop fan de la VAR, mais bon, ça peut nous aider comme nous pénaliser. Donc après, voilà, on n'a pas le choix, on va faire avec. Mais bon, on va pas se fier à la VAR, on va jouer notre football et montrer ce que c'est le Sénégal.
L'assistance vidéo à l'arbitrage a déjà fait des mécontents. Le coach ghanéen s'est plaint du manque du VAR lors du 8e de finale perdu contre la Tunisie. On écoute James Kwesi Appiah.
Je pense que l'introduction de la VAR aidera des pays africains parce que si nous avions la VAR pour vérifier automatiquement le but marqué, peut-être que le résultat aurait été différent.
C'est tout pour le journal de l'ACA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine Raissa Girondin, toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui. En Mauritanie, pouvoir et opposition veulent entamer le dialogue pour sortir de la crise post-électorale marquée par des arrestations d'hommes politiques, de journalistes et de jeunes manifestants. À Nouakchott, Mohamed Diop.
Même en rejetant la victoire de Mohamed Ouldou Ghazouani à l'élection présidentielle, l'opposition mauritanienne n'a pas fermé les portes du dialogue et mardi, le pouvoir a répondu à son appel. Une première rencontre a réuni Seydina Ali Mohamed Khouna, porte-parole du gouvernement et président du parti au pouvoir UPR, et Biram Dabid, arrivé en deuxième position à la présidentielle. Les deux ont évoqué les préliminaires du dialogue. Biram Dabid.
Nous avons réitéré nos soucis préliminaires aux représentants du gouvernement, qui sont en premier lieu la libération de tous les détenus d'opinion, dont les journalistes, les activistes comme Ahmed Ouedia.
Le porte-parole du gouvernement.
Nous avons écouté l'opposition sur les questions qui la préoccupent dans le cadre de la normalisation des relations entre l'opposition critique qui fait des propositions et la majorité qui gouverne.
L'opposition a d'ailleurs mis en place un comité chargé d'harmoniser ses positions avant l'entame du dialogue. Cependant, beaucoup de questions restent en suspens, notamment celles liées à la date du démarrage du dialogue et aux termes de référence. Et l'état d'urgence non déclaré continue, selon cette parlementaire de l'opposition, Kadiata Malik Diallo.
Qu'on soit amené à voir partout des voitures de l'armée avec des 12-7 pointés vers la rue, avec même les bérets rouges, comme une situation que nous n'avons pratiquement pas connue par le passé. Et on ne sait même pas pourquoi cela.
Si en tout cas le président sortant Mohamed Ouldou Abdelaziz engage le dialogue avec l'opposition, il aura retiré une épine du pied du président élu Mohamed Ouldou Ghazouani, qui prête serment le 2 août prochain comme le premier président qui réalise une alternance démocratique au pouvoir. Mohamed Diop, Nouakchott, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Cameroun et le Nigeria se préoccupent de la sécurité au niveau de leurs frontières communes. Les gouverneurs des régions des deux pays, des responsables administratifs et de sécurité ont discuté du sujet pendant 2 jours à Yaoundé. La correspondance de notre correspondant, Emmanuel Juntap.
5 régions du Cameroun partagent la même frontière avec le Nigeria, dont la région de l'Adamawa, qui a 2 départements limitrophes. Cette proximité est parfois source de conflits.
Parfois, il y a quelques conflits agro-pastoraux.
Kildadi Tagieke, gouverneur de la région de l'Adamawa au Cameroun.
Les Nigériens qui entrent dans notre territoire, nous essayons de bien les accueillir, de prendre soin d'eux, jusqu'à ce que la situation se calme et ils rentrent chez eux. Concernant le bétail, le phénomène a été réduit, donc les deux pays sont vigilants concernant notre sécurité.
Depuis octobre 2016, les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, en zone anglophone, sont traversées par une crise qui a eu de l'impact au Nigeria, qui accueille des déplacés et réfugiés camerounais dans l'état de Taraba, un afflux de personnes qui a fait naître la criminalité.
Nous devons rendre nos choses difficiles aux criminels.
Dagari Yessé, secrétaire permanent aux affaires intérieures et spéciales de l'état de Taraba au Nigeria.
Quand les sécessionnistes sont venus là-bas l'an dernier, nous les avons amenés au quartier général de l'immigration et le gouvernement du Nigeria les a renvoyés au Cameroun. Vous pouvez même demander à votre gouvernement ici, ils vous le diront. Nous leur avons rapporté ce problème.
Le terrorisme avec les attaques de Boko Boko Haram, les prises d'otages, la circulation des armes sont autant de défis sécuritaires communs à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les deux pays semblent avoir pris la mesure des enjeux. Bernard Okala Bilaï, gouverneur de la région du sud-ouest au Cameroun.
Les contacts entre les autorités de base le long de la frontière doivent être renforcés pour que des problèmes liés à la sécurité, aux différents trafics, à la fraude douanière puissent être rapidement maîtrisés par les autorités locales au lieu que cela remonte tout le temps au niveau du gouvernement.
Dans le cadre de ce comité de sécurité, le Cameroun et le Nigeria se sont engagés à ne pas tolérer l'utilisation par les rebelles de leurs territoires respectifs pour la déstabilisation de l'autre partie. Général de brigade nigérian et Nagui, chef de la délégation du Nigeria, aux travaux de la 7e commission du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria.
La stabilité à l'intérieur des frontières communes du Cameroun et le Nigeria est par extension aussi la stabilité dans une large partie de l'Afrique de l'Ouest. On ne peut pas combattre le terrorisme et abandonner les autres défis sécuritaires comme les milices d'Amazonie, le trafic de drogue, prolifération des armes légères.
Une déclaration qui a conforté le représentant du Cameroun, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Le comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria a vu le jour en 2012 par un accord bilatéral. Yaoundé, Emmanuel Jiluntap, VOA Afrique.
Au Congo, Brazzaville, Eco Oil Energy développe des activités agroalimentaires pour permettre aux Congolais de consommer local et à bon prix. Dans sa perspective d'accroître sa production, la société veut exporter vers les États-Unis. Eric Manirakiza s'est entretenu avec le président directeur général d'Eco Oil Energy, Wilfried Willy Etoka.
On développe cette filière dans l'agriculture. Donc le palmier à huile, le maïs, le soja et tout ça, on amène à l'industrie, on transforme et on a de l'huile. On était d'abord en train de travailler sur l'autosuffisance en huile pour le Congo-Brazzaville. Donc on a planté 5000 hectares de plantation et aujourd'hui, qui va arriver à maturité en 2020, on va commencer à récolter pour faire l'huile.
Qui en bénéficie?
C'est l'ensemble des Congolais qui en bénéficient de cette production.
Est-ce que les prix sont accessibles pour des contribuables congolais?
Le SMIC aujourd'hui permet à tout un chacun d'acheter. C'est sur plusieurs formats. Il y a des 1 litre, il y a des 0 centilitres. Et puis on a des emballages pour les restaurants, les hôtels.
Quelle est l'originalité justement de ces produits par rapport aux produits traditionnels
de... Aujourd'hui, l'originalité de ce produit, c'est consommer local. Donc c'est un produit qui est produit au Congo et à la portée des Congolais à moindre coût.
Bio ou pas bio?
Bio.
Maintenant, quels sont les défis qui s'opposent?
Les défis de demain, c'est l'exportation de ces produits vers les États-Unis.
Donc vous en avez assez pour nourrir les Congolais et maintenant exporter
vers
les États-Unis?
Mais non, là, on est de passage aux États-Unis. C'est pour rencontrer les partenaires qui doivent nous appuyer sur le plan de formation et technique pour avoir une grande production pour exporter vers les États-Unis.
Dans le cadre de la GOA aussi?
Dans le cadre de la GOA, exactement.
Quels sont les avantages que vous allez bénéficier?
Déjà, exporter sans taxes, c'est déjà quelque chose de bien par rapport à d'autres pays. On sera avec des barrières, des taxes comme l'Union européenne et l'Asie. Et on y va.
Comment vous parvenez de préserver l'environnement tout en produisant votre carburant, etc. Tout
donc,
ça. Et comment vous gérez aussi les problèmes de ressources?
Nous, on s'inscrit dans un programme qui s'appelle TFE Zéro Déforestation. Donc nous, on va s'appuyer pour le biocarburant sur les plantations de savane. Donc on ne va pas toucher les forêts.
Lorsqu'il y a une société de telle ampleur qui s'installe quelque part, il y a toujours des problèmes de conflit foncier entre guillemets parce que des fois il faut avoir un espace suffisant et il faut exproprier. Est-ce que
nous avons 10 millions d'hectares, ça c'est des problèmes qui sont déjà réglés au niveau du gouvernement. Des permis agricoles, il y a les fonciers qui sont destinés au logement et les autres fonciers qui sont en train de travailler là-dessus pour qu'ils puissent mettre à disposition les terres appropriées pour ça. Parce qu'en fait, c'est l'économie qui se développe.
Donc, hectares qui n'appartenaient à personne, qui appartenaient à l'État?
Il y a des zones qui sont réservées à l'État. Il n'y a pas des populations ou les chefs coutumiers qui détiennent ces terres.
C'était Wilfried Willy Etoka, président directeur général de Eco Oil Energy. Il était ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Gabon, les églises de réveil connaissent un essor considérable. Le phénomène déborde sur le cadre juridique de la liberté religieuse. Et les autorités sont muettes sur ces situations qui ne fait pas que des heureux. Reportage d'Ismaël Obiangze à Libreville.
Elles ouvrent leurs portes à tout le monde et promettent amour, argent et prospérité. Bienvenue au royaume des églises de réveil à Libreville. L'opinion publique est cependant divisée sur le rôle de ces structures d'évangélisation dans l'équilibre des couples et leur mode de financement.
Je pense qu'il y a des couples qui ont certainement eu du bonheur et qui certainement connaissent un certain équilibre.
Je n'apprécie pas du tout parce que je pense qu'il y a un profit de par toutes ces églises. On dit qu'on gagnera sa vie à la sueur de son front. Ça veut dire qu'il faut aller travailler pour gagner sa vie.
Plus un pas à Libreville sans église de réveil. Jean-Olivier Boulingui, sociologue, explique le fonctionnement de ces églises.
Cette origine est à la fois liée aux problèmes de gouvernance étatique et également des problèmes de conditions de vie. Parce que nous sommes dans une société capitaliste, il faut de la consommation. Les églises, c'est un appareil idéologique de l'État. Donc ils prennent le relais de l'État pour essayer de contenir les masses sociales qui sont délaissées par les pouvoirs publics.
Selon Hervé Ondoé Sono, docteur en histoire des religions, cette expansion des églises de réveil est structurée autour de trois fondements.
Le premier fondement est l'avantage historique, donc avec la création de la mission évangélique de Pentecôte d'Afrique équatoriale. Deuxième fondement, ce sont les événements des années 90 qui vont permettre l'éclosion de nombreuses églises de réveil. Et le troisième fondement des églises de réveil au Gabon, ce sont les querelles de leadership, donc les séparations au sein de ces églises, puisque chacun va ouvrir sa nouvelle église afin de mieux exprimer les manifestations de l'Esprit-Saint, puisque c'est l'Esprit-Saint qui est souvent le fondement de la pratique religieuse dans ces églises.
Si vous êtes voisin de l'une de ces églises à Libreville, vous êtes bien à plaindre à cause de la nuisance sonore lors des nuits de louange ou de chasse de démons. Joël Nkoulou, juriste, interpelle la puissance publique.
Il y a deux choses. Il y a la police municipale. Il y a le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites pour le maintien de l'ordre public.
Hors micro, un responsable du parquet qui a requis l'anonymat confirme que passé la phase de sensibilisation, le tribunal envisage des sanctions coercitives à l'encontre des promoteurs de ces pratiques. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, retour sur la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est dite choquée par les conditions de détention des migrants aux États-Unis. Mais les autorités américaines estiment que les migrants sont bien traités dans ces centres et mettent plutôt en cause le nombre croissant de personnes effectuant la traversée. Parmi ceux qui tentent cette aventure, il y a de plus en plus d'Africains. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. Zouber Altaïb était à la technique. C'était Raissa Girondin à la présentation. Restez connectés sur notre page Facebook et notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
VOA Afrique, les infos.